Valeur HI 203 et 209, Histoire médiévale. Septième cassette, deuxième phase, présentée par Monsieur Neveu.
Le partage de l'Empire carolingien. Les souverains carolingiens, à partir de Charles Martel et surtout Pépin le Bref, avaient réussi à unifier le royaume franc. Cependant, nous l'avons vu, quand il y avait plusieurs fils, on pensait toujours à un partage, comme cela avait existé dans la tradition franque à l'époque mérovingienne. On pouvait se demander si l'instauration de l'Empire, la restauration de l'Empire, plus exactement, en Occident, n'allait pas changer cette coutume. Cependant, Charlemagne avait plusieurs fils. Et vous pouvez le voir sur le tableau généalogique, au moment où il est empereur, en l'an 800, il a trois fils qui peuvent lui succéder, Charles l'aîné, Pépin et Louis le plus jeune, qu'on appelle Louis le Pieux. Or, dès l'année 806, Charles qui vieillit et qui veut prévoir sa succession, prend une décision en faveur d'un partage. Je vous demande de prendre le texte qui est en annexe. Vous avez un extrait de ce document. Je ne vais pas expliquer évidemment ce texte en détail, mais simplement présenter quelques passages. Le texte commence ainsi. Pour ne pas laisser à nos fils une situation confuse, non réglée, donnant lieu à contestations, controverses et litiges dans tout ce qui est notre royaume, nous avons divisé le corps de tout le royaume en trois parts. Par conséquent, suit une description des différentes parts. Pour commencer, la part de Louis, c'est-à-dire toute la Gaule méridionale, au sud de la Loire et jusqu'à la Provence. Ensuite, la part de Pépin, c'est-à-dire l'Italie et la Germanie du sud, au sud du Danube, donc la Bavière notamment. Et ensuite, la part de Charles, fils aîné, qui est la part principale, puisque c'est tout le reste de l'Empire, à savoir le nord, le centre et l'est. Comme le dit le texte, Francie et Bourgogne, Allemagne, Austrasie, Neustrie, Thuringe, Saxe, Frise et un morceau de Bavière. Donc, une part considérable. Il est également prévu le cas du décès prématuré de Charles. Dans ce cas-là, sa part serait partagée entre ses deux frères. Il est également prévu la succession des trois frères qui pourront léguer leur royaume à leur propre fils. Et sont examinées également, ce qui nous intéresse aussi, les conséquences du partage sur la vassalité. Les vassaux devront conserver des bénéfices simplement dans le royaume qu'ils auront choisi, en quelque sorte. Mais évidemment, ils pourront conserver leurs alleux partout. Voilà donc ce premier partage de 806. C'est un partage, somme toute, assez bien fait, qui laissait à chacun des parts relativement homogènes. Surtout Louis, la Gaule du Sud, presque la future Occitanie, Pépin, l'Italie. Donc des parts beaucoup moins artificielles que celles qu'il y aura plus tard, notamment en 843. Charles veut aussi éviter les contestations à sa mort. Il laisse une part plus conséquente à l'aîné, la partie centrale, et il ne laisse qu'au cadet que les régions périphériques. Il pense aussi à l'assistance mutuelle des frères à la ligne 38 et suivant, et pas du tout à une éventuelle lutte fratricide. Ce partage, qui reprend la tradition franque, peut cependant sembler étonnant après l'instauration de l'Empire en l'an 800. Il ne sera évidemment jamais appliqué, mais simplement par l'effet du hasard, puisque, en réalité, deux des trois frères vont mourir avant leur père. Le premier qui meurt est Pépin, roi d'Italie, en 810. Le second est Charles, en 811, le fils aîné qui était roi associé. Ne reste donc à la mort de Charlemagne en 814 que Louis le Pieux. Et d'ailleurs, Charlemagne avait déjà associé son fils au trône, puisque en 813, de son vivant encore, il avait couronné empereur. Louis le Pieux est donc le seul successeur de Charlemagne, et il semblait devoir maintenir l'unité de l'Empire. Or, en fait, le règne de Louis le Pieux fut extrêmement mouvementé. Dès le début du règne, se posa le problème de sa propre succession, car Louis avait déjà trois fils. Vous le voyez sur le tableau généalogique, ses trois fils qu'il a eus de sa première femme Ermengarde sont Lothaire, Pépin et Louis. Louis le Germanique, appelons-le ainsi pour le distinguer de son père dont il est l'homonyme. Mais Louis le Pieux ne possède pas la forte personnalité de son père, Charlemagne, qui lui avait permis de maintenir un très grand ensemble sous sa houlette. Comme son surnom l'indique, c'est un homme très pieux. Ceci a un revers, car il subit fortement l'influence de nombreux hommes d'église. De plus, c'est un homme indécis, bourrelé de remords quand il a pris une décision. Il est également ballotté entre des influences contradictoires, en particulier entre deux tendances principales et qui vont se disputer tout au long de son règne. D'abord, un groupe d'évêques et d'abbés qui sont partisans de l'unité au nom du christianisme. On ne sépare pas le corps de l'Église. Et d'autre part, un groupe représentant l'intérêt de ses fils et en particulier de l'aîné, Lothaire, et aussi des autres qui réclameront à un moment ou à un autre un morceau de l'Empire. On peut donc distinguer dans le règne de Louis le Pieux plusieurs périodes. Deux périodes essentiellement. Premièrement, une période dite unitaire, et deuxièmement, une période de trouble à partir de 830 et jusqu'à la mort de l'empereur en 840. En ce qui concerne la période unitaire, il y a un grand texte, une décision importante qui est prise au sujet de la succession en 817. C'est ce qu'on appelle l'Ordinatio Imperii, dont vous avez le texte. Prenez ce texte, bien entendu. En 817, Lothaire le fils aîné, qui est né en 795, a 22 ans. Il est donc en pleine possession de ses moyens, déjà capable d'assurer la succession, alors que ses deux frères sont plus jeunes. Pépin a 14 ans et Louis 13 ans. Par conséquent, l'Ordinatio Imperii prévoit une succession unitaire. Et c'est tout à fait une nouveauté, en particulier par rapport au texte de 806 que nous venons d'étudier. Alors, je ne vais pas étudier non plus ce texte en détail. Tout le premier paragraphe présente justement Lothaire comme seul successeur. Il s'agit d'une décision qui est prise au cours d'une assemblée dans le palais d'Aix, une sainte assemblée, comme dit le texte. Et je lis la ligne 12. Il ne parut bon ni à nous ni à ceux qui pensent sainement que l'unité de l'Empire, que Dieu nous a conservée, fût scindée et divisée par les hommes, de crainte que cette occasion ne puisse provoquer un scandale dans la Sainte Église, etc. Et il arriva que nos vœux et ceux de l'ensemble de notre peuple convergèrent pour désigner notre fils premier-né, notre bien-aimé Lothaire. Donc, Lothaire est, dès cette époque, couronné solennellement en tant qu'empereur associé à son père. Quant aux autres frères, encore jeunes, on leur donne le titre de roi et on leur donne en quelque sorte des lots de consolation. Pépin recevra l'Aquitaine, au sud de la Loire, et Louis, la Bavière. Quant à la distribution des honneurs, ligne 35, troisième paragraphe, nous voulons que ces deux frères exercent leur propre pouvoir dans la distribution de tous les honneurs. De même, il est prévu, et c'est aussi une nouveauté, une réunion annuelle. Les deux jeunes frères devront aller à leur frère aîné avec des présents pour lui rendre visite. Le voir et, inspiré mutuellement par l'amour fraternel, traiter avec lui de ce qui est nécessaire, de ce qui touche à l'intérêt commun et à la paix. Bien sûr, le père ne prévoit pas la lutte qui prévaudra effectivement entre ses fils. Il y a donc une prépondérance extrêmement nette du fils aîné qui recueille l'essentiel de l'héritage. En ce qui concerne les conséquences de ce partage sur la vassalité, les dispositions de 806 sont reprises mot pour mot. Mais c'est le principe de l'unité qui prévaut. Regardez le paragraphe 14, ligne 54. Et si l'un d'eux décède en laissant des fils légitimes, que ses possessions ne soient pas divisées entre eux, mais plutôt que le peuple, après s'être réuni, choisisse l'un d'eux, celui que Dieu voudra. C'est un texte très important. Il a évidemment une parenté de forme avec celui de 806, mais une différence fondamentale sur le fond. Pour la première fois, le principe de l'unité prévaut sur celui du partage. L'aîné est seul empereur et dispose de presque tout le territoire. Les cadets ne sont que rois secondaires. Ils ne reçoivent que des apanages, ce qu'on appellera plus tard des apanages restreints, et sont soumis à l'empereur. Évidemment, les circonstances étaient favorables, puisque Lothaire était le seul adulte. Et d'ailleurs, cette décision sera rapidement remise en cause. Ce texte n'impose pas moins le principe de l'unité, non seulement à la première génération, mais aussi aux générations suivantes, par l'article 14. Il finira par s'imposer, sinon dans l'Empire, du moins dans les différents royaumes successeurs. Je vous le disais à l'instant, ce texte est rapidement remis en question par une série d'événements imprévus, et d'abord, en 818, la mort d'Ermengarde, impératrice. Louis le Pieux ne reste pas seul et rapidement il se remarie avec une princesse bavaroise, la fille d'un comte bavarois, Welf. Cette nouvelle impératrice s'appelle Judith. Le mariage a lieu en 819. Et en 823, de ce mariage naît un nouveau fils. Un quatrième fils donc, Charles, c'est le futur Charles le Chauve dont nous parlions tout à l'heure. Alors évidemment, la naissance de ce quatrième enfant va tout remettre en question. D'autant plus que Judith va intriguer pour assurer une part à son fils. Et elle va réussir à débaucher Lothaire, qui est impatient de régner. En punition d'ailleurs, Louis le Pieux va l'envoyer en Italie comme roi secondaire. C'est donc un exil. Et au bout de quelques années, la situation s'aggrave. On en arrive à la période des troubles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous sommes donc en 830 et c'est le véritable tournant du règne. Il y a une très grave crise cette année-là, puisque Lothaire, âgé alors de 35 ans, prend la tête d'une révolte contre Louis le Pieux. C'est une lutte confuse aux épisodes variés. Tantôt, Pépin et Louis sont avec leur père, Louis le Pieux, contre leur frère aîné. Tantôt, ils sont avec ce frère, Lothaire, contre leur père. L'épisode le plus célèbre a lieu en 833, dans ce qu'on appellera ensuite le chant du mensonge. Ça se trouve à proximité de Colmar. Face à face campent alors les armées de Louis le Pieux d'un côté et celles de ses fils de l'autre. Le pape de l'époque est d'ailleurs avec les fils de l'empereur. Au bout de quelques jours, les fils avaient réussi à débaucher tous les vassaux de l'empereur et lui se retrouva seul. L'empereur est donc alors déposé. Mais cela ne va pas durer longtemps. Bientôt, le parti qui est favorable à l'unité va le libérer du monastère où il était enfermé et le rétablir sur le trône. Lothaire devra s'enfuir en Italie. À partir de ce moment-là, l'empereur ne songe plus qu'à céder une grande part d'empire à Charles, son plus jeune enfant, le seul et qui lui reste fidèle. Il prévoit donc lui-même un partage entre ses quatre fils en 839. Il faut dire que ce nouveau partage est facilité par la mort de Pépin, l'un des fils, en 839, et par conséquent, on se retrouve à la situation précédente. Il n'y a plus, en 839, que trois fils. Quand l'empereur meurt finalement en 840, l'idée de l'unité impériale est définitivement morte. Mais la mort de Louis le Pieux ne va pas clore cette période de trouble, car les frères vont continuer à se battre entre eux. Le partage définitif est justement l'œuvre des fils de Louis le Pieux. Après la mort de Louis le Pieux, Lothaire, empereur, prétend exercer son autorité sur tout l'Empire et il veut remettre en vigueur l'Ordinatio Imperii de 817. Bien entendu, les deux frères subsistants ne sont pas d'accord. D'ailleurs, si Lothaire a 45 ans à cette époque, son frère Louis en a 36 et même le jeune Charles a déjà 17 ans. Il est donc en âge de réclamer sa part d'héritage. Louis le Germanique et Charles le Chauve vont donc s'unir contre leur frère aîné. Il y aura d'ailleurs une grande bataille à Fontenoy en Puisée dans l'Yonne, le 25 juin 841. Cette bataille est gagnée par les deux fils cadets et perdue par le fils aîné. Mais la situation n'est pas entièrement réglée par cette bataille, car Lothaire n'a pas perdu tout espoir, il a encore des troupes et des fidèles, si bien que les deux frères, Louis et Charles, s'unissent de façon très solennelle en 842 par ce qu'on appelle le serment de Strasbourg. Je voudrais que vous preniez le texte du serment de Strasbourg que je vous ai donné et dont vous avez deux versions, l'une en traduction et l'autre dans le texte original. Alors voyons d'abord le fond. Le 14 février 842, Louis et Charles se rencontrent à Strasbourg et prêtent serment devant leurs deux peuples assemblés. Les troupes de Charles viennent de la Francie occidentale, de la partie occidentale de l'Empire, et parlent une langue romane. Quant aux troupes de Louis, elles viennent de Bavière, essentiellement des régions germaniques, et parlent donc évidemment une langue germanique. Alors vous avez d'abord un discours qui est prononcé par Louis en sa qualité d'aîné, nous dit le texte. Vous avez ici le texte en latin. Tout ce passage étant extrait de l'œuvre de Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux. Nithard est un contemporain qui a très bien connu ces événements. Alors Charles répète les mêmes déclarations en langue romane, donc il s'agit de se faire comprendre, de l'ensemble des troupes, et ensuite vous avez le texte des serments. Alors d'abord, Louis, le frère aîné, prête serment en langue romane pour être compris des troupes de son frère. Voici le texte, ligne 42. Pour l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien, et notre salut commun, à partir d'aujourd'hui, en tant que Dieu me donnera savoir et pouvoir, je secourrai ce mien frère Charles par mon aide et en toute chose, comme on doit secourir son frère selon l'équité, à condition qu'il fasse de même pour moi. Et je ne tiendrai jamais avec Clotaire aucun plaid qui, de ma volonté, puisse être dommageable à mon frère. Donc, il s'agit d'un serment de secours mutuel, puisque, bien entendu, Charles va prêter le même serment en langue germanique. Les deux frères sont donc unis solennellement face à leurs troupes contre le frère aîné Lothaire. Et ensuite, d'ailleurs, les peuples prêtent serment chacun dans leur langue. Alors voilà donc un document tout à fait intéressant sur le plan historique, mais il présente un autre intérêt sur le plan linguistique, car il s'agit du premier document que nous possédions en langue romane. Ce n'est pas tout à fait le cas pour la langue germanique, on a d'autres documents, mais pour la langue romane, c'est bien le premier. Alors regardez justement la version originale, à la fin de la première colonne, vous avez donc les mots par lesquels nous découvrons cette langue qui est à l'origine directe du français. Je vous en lis quelques passages. Pro Deo amor et pro Christian Poblo et nostro commun salvament. Plus loin, si salvare et o sist meon fadre Carlo. Donc vous avez la traduction. Vous voyez que nous sommes à une étape de l'évolution de la langue où cette langue est déjà dégagée du latin, bien qu'elle reste assez proche du latin, mais elle est encore loin, évidemment, du français tel que nous le connaissons. Je ne peux pas aller plus loin, bien sûr, c'est l'affaire des linguistes. Revenons-en à l'histoire de ces années. Finalement, après ce serment, Lothaire est bien obligé d'accepter la négociation, ce qu'il fait au mois d'août 842. Cette négociation va aboutir avec le célèbre traité de Verdun. Je vous ai donné à ce sujet un dernier texte intitulé « Le traité de Verdun » et une carte qui vous montre quelles sont les limites du partage de Verdun en 843. Donc, le texte extrait des annales de Saint-Bertin, annales rédigées dans l'abbaye de Saint-Bertin, vous donne d'abord une description des événements, les préparatifs, je ne vais pas entrer dans les détails. Lothaire a enfin accepté la négociation, comme je vous le disais. Ensuite, il semble que les grandes lignes du partage soient déjà faites. Il ne s'agit de préciser que les détails. Comme souvent dans ce type de document, on trouve des renseignements d'ordre très différent qui sont ajoutés là, mais qui sont tout à fait intéressants pour l'historien. Par exemple, il est question d'un tremblement de terre dans le sud de la Gaule. Et dans l'ensemble, il est question, dans le deuxième paragraphe, du contexte catastrophique qui règne à cette époque. Alors, en dehors du tremblement de terre, vous avez également une révolte des Bretons, cette population toujours insoumise. Il s'agit également d'un comte en disgrâce, le comte Lambert, qui s'allie avec les Bretons et qui tue Renaud, duc de Nantes. N'oublions pas également, nous en reparlerons, que nous sommes à l'époque des invasions, et notamment des invasions scandinaves, et le texte nous en parle à la ligne 23, l'envahisseur exerçait de toutes parts ses ravages. Alors tout ceci entraîne la famine. Ligne 24, on en était réduit sur beaucoup de points de la Gaule à manger de la terre, à laquelle on mélangeait un peu de farine. D'ailleurs, les Normands s'installent même en Basse-Loire, ligne 31, troisième paragraphe. Les pirates normands attaquent la ville de Nantes, ils mettent à mort beaucoup de clercs et de laïcs des deux sexes. Puis après avoir dévasté la cité, ils se dirigent sur la région de Basse-Aquitaine, donc Basse-Loire en réalité, pour la ravager. Finalement, il débarque dans une île, il s'agit de l'île de Noirmoutier, et il transporte les installations qu'ils avaient sur le continent dans le dessein d'y demeurer pendant l'hiver. Il s'agit donc effectivement d'une installation des Vikings dans une base hivernale. C'est une étape importante, nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est le dernier paragraphe qui nous décrit précisément les royaumes. Alors, regardez la carte pour comprendre ce qui est dit dans ce paragraphe. Donc, les frères se retrouvent à Verdun, près de Verdun exactement. C'est là, nous dit le texte, qu'eut lieu la répartition des parts du royaume. Louis obtint tout ce qui est au-delà du Rhin, par conséquent la Germanie, avec une petite exception pour des cités et qui se trouvaient du côté occidental du Rhin, les cités de Spire, Vence, Mayence et leur territoire. Ceci est très visible sur la carte. Lothaire, le pays qui s'étend entre le Rhin et les embouchures de l'Escaut, le Cambrésis, le Hainaut, le pays de l'Homme, le pays de Mézières, les contes qui avoisinent la Meuse, etc. Vous voyez que la part de Lothaire est assez contrastée. Elle s'étire en longueur sur près de 2000 km depuis la Frise jusqu'à l'Italie, jusqu'à Rome, en passant donc par la Lorraine, la Bourgogne, la Provence, la Lombardie. L'intérêt pour Lothaire, c'était de conserver les villes symboles, les capitales impériales, notamment Aix-la-Chapelle, capitale fondée par Charlemagne, et Rome, où les empereurs se faisaient normalement couronner par le pape. Quant à Charles, il a le reste jusqu'à l'Espagne, c'est-à-dire la partie occidentale qu'on va désormais appeler la Francie occidentale. Alors vous voyez que ce partage est extrêmement important. On s'en est pas rendu compte à l'époque, bien entendu, il suivait d'autres partages, mais il va se révéler définitif. Et vous avez là l'amorce des différents États européens tels qu'ils subsistent encore aujourd'hui. La France, bien entendu, pour le royaume de Francie occidentale de Charles le Chauve. L'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, presque exactement, pour la part de Louis le Germanique. Quant à la part de Lothaire, elle va se trouver rapidement scindée en plusieurs morceaux, dès 855, avec la mort de Lothaire, puisque ses trois fils se partageront leur royaume. Il y aura d'une part, au nord, la Lotharingie, future Lorraine, pour son fils Lothaire II, et l'Italie pour un autre fils qui aura le titre d'empereur, le troisième, ayant la Provence. Nous l'avons vu dans le dernier texte, en 875, Charles le Chauve recueillera le titre impérial pour peu d'années, puisqu'il meurt en 877. Et en 881, Charles le Gros, fils de Louis le Germanique, va devenir empereur et recueillir une dernière fois l'ensemble de l'ancien empire carolingien. Mais en 887, il sera déposé par les grands pour avoir refusé d'attaquer les Vikings. Et en Francie occidentale, il sera remplacé par Eudes, comte de Paris, et qui est le point de départ d'une nouvelle dynastie, la dynastie des Robertiens, qui donnera naissance un petit peu plus tard à la dynastie des Capétiens. Deux dernières dates pour terminer. En 862, nous avons en Germanie le couronnement impérial d'Othon le Grand, donc une nouvelle dynastie saxonne qui rétablit l'empire, mais sans compter la Francie occidentale. C'est un empire qui comprend la Germanie et l'Italie. Et enfin, en 987, à la mort du dernier roi carolingien en Francie occidentale, c'est l'élection d'Hugues Capet, descendant de Eudes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le premier véritable capétien. Et d'ailleurs, cette année, 1987, nous fêtons le millénaire de cet événement. Donc, les nations modernes sont nées du hasard de ces partages, et nous sommes bien ici aux origines de l'Europe